merci, monsieur le maire, pour cette introduction. Vous avez déjà bien avancé le débat. Merci, madame la présidente, de vous accueillir. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vais donc vous parler effectivement d'un sujet qui peut paraître peut-être un peu rébarbatif un samedi après-midi, mais bon, qui concerne tout le monde, comme a dit monsieur le maire, qui n'est pas touché de près ou de loin par ces pathologies qui deviennent de plus en plus fréquentes. Et en fait, si vous voulez, c'est par cet intermédiaire que je suis venu à m'intéresser à cette nouvelle approche médicale, on pourrait dire. De formation, je suis chirurgien cancérologue, donc quelque chose d'assez classique, assez technique, on va dire. Mais depuis quelques années, j'essaye de proposer, en plus des traitements classiques, proposer des accompagnements pour renforcer les défenses de l'organisme, l'immunité, etc. Et donc renforcer l'efficacité des traitements médicaux. Donc c'est vraiment complémentaire, il ne s'agit pas d'opposer les médecines alternative et la médecine officielle, c'est vraiment les mettre en complémentarité. Voilà, donc au départ, les constats, c'est de, comme je disais, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé à tout ça? C'est le fait que de plus en plus de maladies voient leur fréquence augmenter et parfois dans des proportions considérables. Ce qu'on peut appeler les maladies émergentes, donc ce qui émerge au niveau des fréquences. Et ces maladies émergentes, elles concernent différentes pathologies. Des maladies métaboliques, il y a de plus en plus de diabète, de plus en plus d'obésité, etc. Pour prendre l'exemple du diabète, donc, il a explosé en une génération, c'est 5 fois plus en 25 ans, c'est considérable. Des maladies dégénératives, alors l'arthrose, l'ostéoporose, etc., la maladie d'Alzheimer, toutes ces maladies sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus répandues. Et puis les cancers, qui sont une forme un peu particulière de maladies dégénératives, puisque quand on parle de dégénérescence, une cellule cancéreuse est dégénérée, donc c'est la forme ultime de maladie dégénérative. Et là aussi, on voit un doublement des cas en 50 ans. Autrement dit, on a deux fois plus de risques d'avoir un cancer que nos grands-parents. C'est quand même pareil. Et en plus, j'ai pu le constater dans mon exercice, ces formes touchent des gens de plus en plus jeunes et ce sont des formes de plus en plus agressives. Voilà un exemple, ça c'est le cancer de la prostate, et là c'est carrément multiplié par 5 en une génération. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas des causes à ça. Et l'idée c'est de dire quelles sont les causes qui font qu'on a une telle explosion de ces cancers ou de ces autres maladies. Il y a aussi des maladies de l'immunité, alors les allergies pareil ont explosé, et puis actuellement on n'a pas un petit peu d'allergies, ça devient extrêmement répandu. Les maladies auto-immunes, la liste est longue, on connaît les polyarthrites, les spondylarthrites, les rectocolites, les maladies de Crohn, les scléroses en plaques, etc. Ces maladies ont également énormément augmenté en fréquence. Ça, c'est la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, etc. Donc toutes ces maladies explosent. Et puis d'autres maladies qui autrefois étaient inconnues. La fibromyalgie est une maladie qui devient extrêmement répandue. Et en fait, si vous voulez, c'est une définition qui est clinique, c'est-à-dire l'association d'une fatigue chronique et de douleurs musculaires et articulaires. Donc, qui n'a pas un petit peu de fatigue, qui n'a pas un peu de douleur, donc c'est quelque chose qui devient très très répandu. Quand j'ai fait mes études de médecine, personne ne parlait de fibromyalgie, c'est une maladie qui était inconnue. Donc, toutes ces maladies apparaissent et explosent, et il y a donc des raisons à ça. Et puis, bien d'autres, j'ai mis l'hyperactivité. Ça devient de plus en plus fréquent, l'autisme, etc. Heureusement, il y a des solutions. Comme je vous disais, il y a des explications à cette explosion de fréquence. La solution, ça va être d'identifier ce qui fait que ces maladies se développent pour pouvoir supprimer les causes, éliminer les causes des maladies. Alors, souvent, quand on parle de maladies, au départ, on parle de gènes. C'est vrai qu'il y a des gènes qui sont plus ou moins fragiles dans une famille et qui vont donc prédisposer plutôt à telle ou telle maladie. Ça, c'est vrai. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que ces gènes à risque ne s'expriment que s'il y a des conditions qui font qu'ils vont s'exprimer ou non. Ces conditions, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour des gènes. Autour des gènes, c'est l'environnement. Ça va être, d'une part, l'environnement alimentaire. L'alimentation peut être toxique ou au contraire plutôt protectrice. Ça va être les toxines environnementales, donc la pollution, etc. Et enfin, ça va être ce que j'appelais les toxines émotionnelles. On sait que le stress, au sens large, affaiblit l'immunité et peut tout à fait provoquer des expressions de gènes malades. On a tous des gènes fragiles Et à partir de là, avec ces conditions-là, selon les gènes dont on dispose, on va développer plutôt un diabète, plutôt un cancer, mais le terrain est le même. Voilà. C'est ça qui est important, c'est que finalement, ça devient un petit peu artificiel de dire on va s'occuper du diabète, on va s'occuper de... Il faut agir sur le terrain, et quand on agit sur le terrain, obligatoirement les choses s'améliorent. On peut très facilement évaluer le degré d'intoxication, puisque j'ai beaucoup parlé de toxines, le degré d'intoxication de son organisme avec un questionnaire qui s'appelle le MSQ Medical Syndrome Questionnaire, qui est disponible sur mon site, vous pouvez tout à fait le télécharger. Ça se présente comme ça, vous avez toute une liste de symptômes, de questions. Pour chaque symptôme, vous mettez entre 0 et 4, selon que vous avez jamais, rarement, parfois, etc. Et donc, vous faites ça pour chaque question, et au final, ça permet d'aboutir à un score. Plus le score est élevé, plus on est intoxiqué, et plus on risque donc d'avoir ces fameuses maladies. Il n'y a pas de seuil, on ne peut pas dire à partir de 30 ou de 40. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on devrait tous être proche de zéro. Plus on est bas, mieux c'est. On va voir rapidement ces trois toxines que j'ai identifiées tout à l'heure comme étant des facteurs épigénétiques qui agressent les gènes. Tout d'abord, donc, les toxines intestinales, et savoir qu'il existe des aliments toxiques, ce que j'ai appelé les mauvais sucres et les mauvaises graisses. Ce sont des aliments qui agressent les gènes. Et à l'inverse, donc, il existe des aliments protecteurs. Les mauvais sucres, ce sont les sucres rapides. Et là aussi, attention, mais c'est souvent une confusion dans l'esprit des gens. Assez souvent, les aliments sont mal identifiés. Donc, par exemple, on dit souvent sucre rapide, c'est le sucre, et sucre lent, ce sera par exemple les pâtes. En fait, c'est pas du tout ça. Donc, les mauvais sucres, ce sont les farines raffinées, les farines blanches. Hein, donc, attention, pain blanc, les pâtes, tout ce qui fait avec des farines raffinées. Les sucres ajoutés dans tous les aliments industriels, donc sirop de fructose, de glucose, etc., ça c'est des sucres très rapides qui vont intoxiquer. L'alcool accélère encore tout ça. Mais heureusement, il y a un certain nombre de bons sucres. Ça va être tous les sucres contenus dans les fruits et légumes. Et puis les farines complètes ou semi-complètes. Donc si vous privilégiez un pain complet, des pâtes complètes, ce sera beaucoup mieux que tout ce qui est à base de farine raffinée. Alors tout ça, c'est repris dans des tableaux que vous pouvez trouver sur mon site internet, où les aliments sont classés en sucres rapides en haut, qui sont donc toxiques, on va dire, et sucres lents en bas. On constate que tous les aliments transformés sont des sucres rapides et donc toxiques. Hein, le pain raffiné, les riz précuits, les pommes de terre frites, les pommes de terre en flocons, etc. Ça, c'est des sucres très rapides et donc très toxiques. Et à l'inverse, tout ce qui est naturel, et surtout en bas, les fruits, les légumes, les choses comme ça. Attention aussi à l'attirance pour le sucre. Quand on est attiré par le sucre, c'est qu'on a un déséquilibre au niveau de son intestin. Ça, c'est l'intestin, donc c'est un tube. Quand tout se passe bien, donc l'acidité et le pH est neutre, et on a une bonne flore intestinale, tout se passe bien. Dans certains cas, on va avoir un pH acide qui va se développer. À partir de là, il va y avoir prolifération de champignons microscopiques dans l'intestin, qu'on appelle les candidats. Ces champignons fabriquent une substance qui va passer dans le sang, qui va aller jusqu'au cerveau, au niveau du cerveau qui va nous réclamer du sucre. Pourquoi ? Parce que ce sucre se transforme en acide dans l'intestin et que ces champignons ont besoin d'acidité. Ils réclament du sucre pour pouvoir se développer. Le problème, c'est que ces champignons sont très toxiques. Ces candidats sont mis en cause dans beaucoup de pathologies, les cancers, les fibromyalgies, etc. Donc si vous êtes attiré par le sucre, c'est que vous avez ces champignons. Il faut tout faire pour vous en débarrasser. Il n'y a qu'une façon de s'en débarrasser, c'est de corriger ce terrain trop acide. Quand le terrain n'est plus acide, ils disparaissent, les champignons disparaissent. Dès que le terrain revient acide, ils réapparaissent. Comment on peut corriger un terrain trop acide ? D'une part, par l'alimentation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, éviter tous les sucres rapides, donc des mauvais sucres, et puis également les mauvaises graisses. Et par contre, privilégier tous les aliments qui sont basifiants, donc anti-acides, à savoir les fruits, les légumes, les céréales complètes, éventuellement on peut rajouter un petit peu de bicarbonate pour désacidifier. Donc l'alimentation est déjà un premier moyen de corriger un terrain acide. Le deuxième moyen, c'est par la respiration, parce que l'autre source d'acidité dans l'organisme, c'est le gaz carbonique. Quand on a trop de gaz carbonique, il se transforme en acide carbonique, et la respiration permet d'éliminer l'excès de gaz carbonique. Donc c'est une respiration très simple, mais à faire souvent. Un petit truc très simple, c'est de faire cette respiration en marchant. C'est, le principe est simple, on fait 4 pas en inspirant, 8 pas en soufflant. Et quand on fait ça, tout le temps où on va marcher, on va mettre à profit pour éliminer le gaz carbonique et donc désacidifier son organisme. Si on accélère, on peut faire 3 pas, 6 pas, mais voilà, le principe est là. De même qu'il y a des bons sucres et des mauvais sucres, il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Donc je ne vais pas vous donner le détail, tout ça vous le retrouvez sur mon site internet. Là aussi, tout ce qui est toxique, ce sont les graisses industrielles. Alors les graisses hydrogénées qui devraient être maintenant interdites, l'huile de palme, etc. La plupart des graisses animales. Mais là aussi, heureusement, il existe des bonnes graisses, qui sont les graisses naturelles, essentiellement les oméga 3, qu'on retrouve dans les noix, qu'on retrouve dans les poissons. Et notre organisme a impérativement besoin de ces bonnes graisses. Donc il faut lui en apporter tous les jours. Un exemple, 4 noix par jour, les noix donc c'est une très très bonne source d'oméga 3, 4 noix par jour diminuent le risque de décès cardiaque de 50%, c'est énorme. Vous voyez, 4 noix déjà, vous gagnez énormément. Pareil pour les cancers, chez l'animal on montre, alors chez l'homme c'est un peu plus long d'avoir les études, mais déjà chez l'animal on montre que l'apport en oméga 3 réduit quasiment d'autant les risques de cancer, quasiment de moitié. Donc ces oméga 3 sont indispensables. Ça, c'est un exemple typique de plat hautement toxique et inflammatoire. Là, vous pouvez vraiment tout jeter, j'allais dire. Ce sont des sucres rapides, des mauvaises graisses, etc. Alors, une fois en passant, bien sûr, il ne se passe rien, mais si c'est l'alimentation quotidienne, souvent des adolescents, etc., c'est une catastrophe. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que pendant des années, les diététiciens ont parlé de quantité d'aliments. On parlait de tant de calories, tant de protéines, tant de glucides, etc. C'est plus du tout, à mon avis, une bonne approche. Ce qui est beaucoup plus important que la quantité, c'est la qualité des aliments. Je donne un exemple assez simple, l'exemple des Esquimaux. Les Esquimaux qui ont une alimentation extrêmement riche en graisse, essentiellement des graisses de phoque, etc., pour se protéger du froid. Eh bien, cette ethnie ne connaît pas les maladies cardiovasculaires, ne connaît quasiment pas les cancers, les maladies auto-immunes, etc. Donc, parce qu'ils consomment des bonnes graisses, les graisses de poisson, je vous ai dit, elles sont riches en oméga 3. Donc, bonne graisse, pas de problème. Par contre, c'est sûr que si ils consommaient la même chose, la même quantité en mauvaise graisse, ce serait tout à fait différent. Bien manger ne coûte pas plus cher. Souvent, on pense que c'est réservé à certains, etc. En fait, c'est bien de diminuer l'apport en viande. On n'a pas besoin de manger de la viande pour être en bonne santé, donc déjà ça permet d'avoir une alimentation moins coûteuse. Les poissons, les meilleurs pour la santé, c'est les petits, les sardines, les maquereaux, voilà. Donc, on peut très bien s'alimenter très correctement avec des choses très simples et pas coûteuses. Attention par contre au bio, enfin, quand je dis attention, c'est pas une critique, simplement je veux dire par là que qui dit bio ne dit pas obligatoirement bon. Alors, on peut avoir des produits bio qui sont remplis d'huile de palme, de sirop de fructose, de glucose. Donc restez quand même avec une attitude un peu critique, ne pensez pas que parce que c'est bio, c'est bon. Un mot des intolérances, c'est quelque chose qui devient également de plus en plus répandu, on connaît tous les intolérances au lait et au blé. Et donc qu'est-ce que c'est qu'une intolérance en quelques mots? C'est un état en fait de porosité de l'intestin. Qu'est-ce qui se passe? Normalement l'intestin donc, est un tube avec une paroi sélective qui ne laisse passer que ce qui est utile. Et dans certains cas, cette paroi intestinale devient microporeuse. Quand c'est le cas, tout un tas de substances toxiques vont sortir de l'intestin, des bactéries, des particules alimentaires, etc., passer dans le sang. En traversant l'intestin, elles vont déjà provoquer ce qu'on appelle des troubles fonctionnels intestinaux, les colites, les colopathies, tous ces problèmes extrêmement répandus. Et quasiment toujours, quand on a ces symptômes de colopathie, c'est qu'on a un intestin poreux. Une fois que ces toxines sont dans le sang, elles vont être récupérées par le foie, qui est l'organe qui a pour but de détoxifier. Donc c'est ce qu'il fait au départ. Mais quand toutes les toxines arrivent depuis l'intestin, rapidement le foie n'arrive plus à faire face. À partir de là, ces toxines sont éliminées par d'autres organes, la peau, les muqueuses. Ça va être donc eczéma, psoriasis, sinusite, rhinite, cystite à répétition. Enfin, tous ces problèmes extrêmement fréquents qui sont liés à l'élimination des toxines par ces organes. Et je vous l'ai dit, les deux aliments les plus toxiques sont les protéines de lait et les protéines de blé. Comment savoir si on est intolérant au niveau de l'alimentation? On peut le suspecter grâce au questionnaire dont je vous ai parlé. Plus le score est élevé, lui déjà ça oriente vers une intolérance. Mais surtout, je vous l'ai dit, si vous avez des symptômes intestinaux, un trouble fonctionnel de l'intestin, colopathie, ça oriente très fortement vers un problème d'intolérance. Par contre, on parle beaucoup des dosages sanguins. Personnellement, je vous le déconseille, on peut chercher des intolérances au lait, au blé par des prises de sang. Ça coûte cher, c'est pas fiable, et vraiment, je vous le déconseille, on pourrait en parler si vous voulez, mais je vous le déconseille. La certitude se fait par un petit protocole, que j'ai appelé le protocole anti-hyperperméabilité, où pendant quelques semaines, on va arrêter le lait et le blé. Si les symptômes s'améliorent, c'est qu'on est intolérant. On va aider la paroi intestinale à cicatriser, à ne plus être poreuse. Et puis on va donc restaurer la flore, qui est quelque chose de très important dans la porosité. Retenez que ces états de porosité intestinale et donc d'intolérance sont très très répandus, hein, très sous-estimés. Peut-être sans doute la moitié de la population a ces intolérances. Et que ça représente une cause majeure d'intoxication de l'organisme. Juste en deux mots, quelques idées reçues. On entend à longueur de journée, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est faux. Je vous ai montré le problème d'intolérance au lait, on pourrait parler d'autres problèmes. Et juste pour vous dire que plus un pays est consommateur de lait, plus il a de personnes touchées par l'ostéoporose. Contrairement à ce qu'on nous a dit pendant des générations. De même que la viande est indispensable pour être en bonne santé, c'est faux aussi. Un végétarien vit plus vieux que les autres. Alors on n'est pas obligé d'être végétarien, mais on n'est pas obligé d'avoir de la viande pour être en bonne santé. Encore un mot sur la micronutrition. On a parlé là des aliments qu'on va appeler les macro-aliments. La micronutrition, ça va être des vitamines, des minéraux, etc. Et donc déjà prendre conscience qu'on est tous également un peu carencés, parce qu'on a une nourriture de plus en plus appauvrie. En quelques mots, il faut savoir que les sols sont souvent épuisés par les cultures intensives. Donc on a montré qu'ils s'appauvrissaient en sélénium, en zinc, etc. Et non seulement ils sont plus pauvres, mais en plus, ces aliments, quand on va les récolter, on va les raffiner. Et donc on va consommer des farines raffinées, du sucre raffiné, du sel raffiné. Tout raffiné, donc on n'aura plus ces éléments indispensables. À partir de là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de prendre des compléments alimentaires ? Il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits qui semblaient un peu contradictoires. Certains qui disaient que ça apportait un bénéfice, d'autres qui disaient que non, que ça pouvait même aggraver un peu les choses. Et en fait, la raison de cette contradiction est assez simple, c'est qu'il ne faut apporter des vitamines et des minéraux que si on est en carence. Si on n'est pas en carence, au contraire, l'excès peut devenir toxique. Et on a la possibilité maintenant, par un petit appareil que je vous montrerai, de voir si on est en carence, quelle carence et comment les compenser. À partir de là, quel complément alimentaire ? Je ne vais pas vous donner le nom d'un laboratoire plus qu'un autre, ou plutôt si, je vous dirais, un fabricant qui est au-dessus des autres, c'est la nature. On ne fait vraiment pas mieux. Essayez au maximum d'apporter tous ces bons aliments par l'alimentation. Je prends l'exemple des noix, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Entre des noix et des capsules d'oméga-3, il n'y a pas photo, il faut prendre les noix. Ça va apporter non seulement les oméga-3, mais également beaucoup d'autres choses qu'il n'y a pas dans les capsules. Et puis attention aussi, c'est l'occasion de faire penser que votre alimentation est vivante. Entre des noix et des brisures de noix, déjà ce ne sera pas la même chose puisque ces oméga-3 sont fragiles. Là, ils vont s'oxyder au contact de la lumière, de l'oxygène. Et déjà, ce sera beaucoup moins riche en oméga-3. Si vous prenez de l'huile de noix, c'est pas mal, mais pareil, il faut la choisir de première pression à froid, de bonne qualité, la garder à l'abri de la lumière, au frigo, pas trop longtemps. Donc voilà, attention que les aliments ne sont pas interchangeables, ils sont vivants. Oui. Un mot de la phytothérapie, on redécouvre, ça c'est également une grande redécouverte récente, c'est que dans les aliments, il y a tout un tas de substances qu'on appelle les polyphénols, qui sont irremplaçables. Ça c'est par exemple le curcuma. Le curcuma, c'est une racine, c'est le plus puissant anti-inflammatoire naturel. Beaucoup de patients pourraient remplacer leur rhodotaréne ou autre par du curcuma sans en avoir les inconvénients. Voilà, là, je vous ai mis quelques exemples, c'est illisible pour vous dire que vous avez le chocolat noir, le thé vert, le vin rouge, etc. Tous ces aliments ont des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, etc. Et ça, c'est vraiment irremplaçable. Tous les jours, on montre que consommer un peu de café, ça protège, consommer un peu de vin rouge, ça protège, etc. C'est irremplaçable et c'est pour ça que je vous dis les végétaux sont une source d'aliments irremplaçables. Donc, en synthèse pour l'alimentation, privilégier les aliments végétaux plutôt que les aliments animaux. Par exemple, même pour le lait, on est plutôt du lait végétal que du lait animal. Ne pas oublier d'enrichir en oméga-3, puisque actuellement on est pratiquement tous carencés en oméga-3. Ne pas laisser persister une attirance pour le sucre, qui est la preuve de ces champignons toxiques, et donc à tout prix lutter contre ça. Et enfin, détecter un état d'intolérance, en particulier avec ces fameux troubles fonctionnels intestinaux. Voilà, je passe aux facteurs toxiques de l'environnement. Donc, j'étais un petit peu long sur l'alimentation, après ça ira plus vite, je vous rassure. Si vous avez peut-être déjà des questions concernant l'alimentation, est-ce que vous voulez que des questions à la fin? Oui.
Au niveau du lait, est-ce que l'on considère tous les laits, les chèvres, les vaches, les alimentations, ou est-ce...
Alors tout dépend de ce qu'on considère dans le lait. Si c'est par exemple pour un problème d'intolérance, c'est vrai que souvent les gens ont plus des intolérances au lait de vache qu'au lait de chèvre ou de brebis. Si on considère les hormones, le lait de vache contient énormément d'hormones et de facteurs de croissance, ce qui peut être toxique en cas de cancer. En cas de cancer, je vous conseille fortement le lait parce qu'il y a des facteurs de croissance et des hormones qui font proliférer les mauvaises cellules. Et ça, c'est beaucoup moins vrai pour les laits de petits mammifères comme le chèvre ou brebis. Mais l'idéal, je vous dis, c'est le lait végétal. Vraiment, on n'a pas ces inconvénients. Oui. Alors, quand je dis le sucre, c'est pas bon, c'est pas exactement ça. C'est les sucres rapides, ne sont pas bons. Encore une fois, tous les sucres contenus dans les fruits, par exemple, sont bons. Le miel, c'est un intermédiaire, c'est un sucre assez rapide. Mais en prenant un petit peu de miel tous les jours, c'est pas un problème. D'autant que le miel, c'est un concentré de polyphénols de tout un tas de fleurs. Donc ça, c'est positif. Mais j'attire plus attention sur les mauvais sucres en disant que un mauvais sucre, c'est pas obligatoirement un aliment qui a un goût sucré. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, le pain blanc, le riz très cuit, ça c'est pas c'est salé, mais c'est des sucres rapides. Donc c'est une petite gymnastique à faire pour s'habituer à ça. Oui.
Pour le lait,
oui.
Lesquels vous prendre?
Donc je vous disais, dans la mesure du possible, si vous, par exemple, pour cuisiner, c'est mieux de prendre des laits végétaux. Si par contre c'est pour le goût, hein, par exemple le fromage, etc., plutôt en effet les laits de chèvre ou de brebis. Et si vraiment on est accro au lait de vache, un petit peu de lait de vache, mais le moins possible. Après, il ne faut pas non plus se mettre sur la pression, c'est-à-dire qu'il faut garder un peu de souplesse. Mais globalement, sur des années, des dizaines d'années, on montre que le lait a quand même des inconvénients.
Est-ce que les amandes peuvent remplacer les noix? Parce que moi, les noix, c'est un
désastre. Alors, les amandes sont un petit peu plus riches en oméga-6 que les noix. Et comme actuellement notre alimentation est trop riche en oméga-6, il ne faut pas trop forcer sur l'oméga-6. En particulier, si vous voyez des produits marqués enrichis en oméga-3 et oméga-6, je vous conseille d'éviter parce que les oméga-6, on en a trop. Mais plutôt des oméga-3 comme dans les noix. Après, les amandes, c'est quand même un bon aliment, hein. Vous pouvez très bien en prendre, mais c'est mieux de prendre plutôt les noix. Et si ça vous donne des actes, il faut les faire tremper plusieurs heures, 3-4 heures dans de l'eau. Et normalement, elles perdent ce côté irritant. Soit les pelées, mais même en les trempant, on évite ce problème. Ou après, donc, il y a aussi l'huile de noix, c'est pas mal, mais il faut les garder bien protégées de l'oxygène et de la lumière.
Est-ce que vous pourriez me tranquilliser en me répondant oui? Tout aliment est bon, condition que ça ne soit pas pris en excès.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Tout est question de quantité. Hein. Encore une fois, si on mange même 3 fois de suite du steak frites, il ne passera rien. Mais c'est une question sur des années et des années. Voilà. Mais en petite quantité, tout est bénéfique, je suis d'accord. Oui.
Si on considère que toute l'alimentation potagère, Carrefour ou autre, on a beaucoup de produits qui viennent de loin ou qui ont été transformés et ainsi de suite. Mais même des fruits qui ont traversé l'océan ou autre ont perdu beaucoup de leur
Oui, ils ont perdu, mais ça, c'est plus la question écologique, hein, c'est-à-dire effectivement l'indice carbone, etc.
Non, mais ça, c'est un autre aspect.
Voilà, c'est un autre aspect. Mais après, bon, même du raisin qui vient d'Argentine, bon, il n'est pas trop mauvais. Après, on ne sait pas obligatoirement comment il a été traité. Voilà.
Et il a été. Voilà, je pose la question autrement, le fait que vous consommez plusieurs jours après, il a une date et une durée à partir de laquelle les bons commencent vraiment à se dégrader en termes de.
C'est progressif, hein. On ne peut pas parler de délais précis. Disons, plus on s'éloigne et plus les aliments perdent leurs bénéfices. Sachez par exemple, pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner, etc., le surgelé, pour ça, est très commode. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont cueillis et conditionnés tout de suite. Donc, ils sont très riches en vitamines, en minéraux. Ils sont cueillis en pleine saison, donc en plus, ils sont moins chers. Parce que c'est... Et finalement, c'est un très très bon moyen et on a comme ça tous les fruits et légumes disponibles en permanence à volonté. Et en quelques minutes, on peut préparer un repas très varié.
La surgélation des trucs.
Non, non. Mais sinon, je dis, il n'y a pas une date limite, hein, mais pour dire que donc un aliment surgelé sera souvent plus riche en vitamines et minéraux que même un aliment sur le marché. Parce que justement, il aura été conditionné tout de suite.
Moi, je pense qu'on peut dire que pour les vitamines, c'est la vitamine C qui est dégradée rapidement quand les légumes ou les fruits ne sont pas consommés rapidement, mais c'est que pour.
Voilà, c'est vrai, après il faudra rentrer dans les détails pour chaque vitamine, etc. Mais disons que j'essaie de donner vraiment des règles assez simples. Hein, c'est-à-dire les végétaux, d'une façon générale, c'est bon, même si c'est pas bio, même si c'est pas. Voilà. C'est des choses assez simples. Hein, parce que si plus ça va, plus on complexifie le message, et à un moment les gens ne savent plus ce qu'il faut faire. Il vaut mieux avoir des idées assez simples qui ne sont pas parfaites, peut-être, et parfaitement justes, mais garder un cap. Encore une fois, c'est mieux de prendre des fruits et légumes, même pas bio, non bio, que des pas de fruits. Oui, là aussi, plus on va cuire d'une façon générale, et plus on va dégrader les aliments. Alors, là aussi, il faut rester avec une certaine souplesse. Tout ce qui est bouilli, ça va. C'est vrai qu'après, il faut éviter au maximum quand même tout ce qui est cuisson, grill, barbecue, etc. Bon, là aussi, une fois en passant, il ne se passe rien, mais à terme, on sait que c'est quand même pas très bon.
Comment
corriger
les grands
acidités? Alors, je vous l'ai dit, il y a deux
façons. C'est la base.
Voilà. Et ça marche. Ça marche toujours. C'est-à-dire que si vous suivez.
Si l'acidité, elle reste pendant un certain temps, comment.
Si pendant un mois, vous évitez tous les sucres rapides et que vous faites cette respiration dont je vous parlais en marchant, on peut dire qu'il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire qu'on supprime les deux causes d'acidité.
Si on a un cancer et que l'acidité est due au cancer.
C'est en partie dû au cancer, mais le cancer ne suffit pas à maintenir un terrain acide en permanence. Toute acidité peut être combattue avec des choses aussi simples que ça. Je vous garantis.
Mais à boire, ça a été très
bien. Alors, suivant tous ces conseils à la lettre, voilà. Ça peut être un peu plus long, mais habituellement, alors je ne vous dis pas qu'en un mois tout est réglé, mais souvent au bout d'un mois, les gens disent je suis moins attiré par le sucre, au bout de mois, je suis encore moins attiré. Voilà. C'est rare qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ces champignons par des choses simples. Et à l'inverse, les médicaments ne marchent pas, c'est-à-dire qu'on peut détruire ces candidats par des médicaments, mais dès que le traitement s'arrête, si l'acidité est là, les champignons repartent. Donc pour moi, la médication peut être un petit coup de pouce, mais ça ne remplacera certainement pas le fait de se désacidifier. Pas d'autres questions? Voilà, donc on passe au. Toxines environnementales. Autrefois, donc, on avait un peu de toxines dans l'environnement, avant l'industrialisation, on va dire, et on avait une capacité, on a tous une capacité de détoxication qui était suffisante, et donc tout se passait correctement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup plus de toxines qu'avant. On n'a pas plus de capacité de détoxication, même souvent un petit peu moins, pour un certain nombre de raisons qu'on pourrait détailler. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une accumulation de toxines. Et vous verrez, je vous montrerai après des examens, on est tous plus ou moins intoxiqués. Pour aider la détoxication de l'organisme, puisque je vous rappelle que c'est un phénomène heureusement naturel, hein, on a tous une détoxication, on va pouvoir l'aider grâce à certains aliments. Par exemple, la détoxication a besoin de soufre, et donc le chou est un aliment riche en soufre qui va aider à la détoxication. L'ail aussi, tous les aliacés. Puis il y a des plantes, hein, je parlais des polyphénols, donc les plantes comme le chardon-marie, l'artichaut, le radis noir, sont des plantes qui vont aider le foie à mieux fonctionner. On peut également aider son organisme à se détoxifier par l'activité physique qui va à la fois mobiliser les toxines. Les toxines sont piégées dans le tissu graisseux essentiellement. C'est une façon pour l'organisme de mettre un petit peu de côté. Et l'activité physique mobilise les toxines et ensuite permet de les éliminer par la transpiration. Et enfin, dans certains cas, on peut avoir besoin d'antidotes carrément par rapport à certaines substances toxiques, et en particulier donc vis-à-vis des métaux lourds.
C'est quoi
les chélateurs ? C'est des produits qui vont attraper les métaux lourds et permettre à l'organisme de se débarrasser des métaux lourds plus facilement. Mais je vous en reparlerai. Alors, dans les cancers, l'importance et l'intérêt de l'activité physique ont été étudiés et on montre que 30 minutes de marche rapide tous les jours diminue le risque de cancer d'environ 15 à 30%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et ce gain est proportionnel à l'activité, c'est-à-dire que plus on va faire d'activité, plus on va réduire son risque. Non seulement c'est préventif, je vous ai dit que ça diminuait le risque de développer un cancer, mais c'est également efficace en curatif. Quelqu'un qui a un cancer a quasiment, pratiquement deux fois plus de chances de guérir s'il fait d'activité physique que s'il n'en fait pas. En bleu clair, ce sont les personnes qui ne font pas d'activité physique. Comparé à ceux qui en font, vous voyez qu'ils ont parfois jusqu'à moitié moins de chances de guérir. C'est vraiment le pourcentage de guérison qui est mis là. Pour différents cancers, sein, colon, prostate, etc., l'activité physique diminue par deux le risque de mourir de son cancer, ce qui n'est pas anodin. Ce n'est pas vrai que pour le sport, toute activité est bénéfique, si vous voulez, ça pouvait être le ménage d'un autre œil, et puis c'est vrai pour les hommes aussi. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux métaux lourds, parce que d'une part c'est facile à mesurer, on a un petit appareil, je vous montrais, qui permet de mesurer facilement les métaux lourds dans l'organisme. D'autre part, c'est un bon reflet de la pollution, de l'intoxication générale, puisque les métaux lourds, il y en a dans le tabac, il y en a dans les pesticides, il y en a un petit peu partout. Et donc si on retrouve beaucoup de métaux, c'est qu'on a beaucoup de polluants. Ces métaux sont toxiques sur l'intestin. On montre qu'ils favorisent la porosité de l'intestin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont toxiques sur l'immunité. Et on a beaucoup d'arguments aujourd'hui pour dire que dans les maladies auto-immunes, ces métaux sont largement mis en cause. Également dans les allergies, dans les infections, dans les cancers. Donc les métaux lourds sont largement mis en cause. Et puis sur le système nerveux, il y a des métaux qui sont toxiques sur le système nerveux. Ça va donner fatigue, confusion, troubles de mémoire, etc. Au maximum Alzheimer, troubles de l'humeur, Donc beaucoup de pathologies liées à ces métaux. On peut les doser de différentes façons, mais je vous parlerai essentiellement de la spectrophotométrie, puisque actuellement c'est de loin la technique la plus simple et la plus efficace. C'est donc un petit appareil qui permet de mesurer au niveau de la paume de la main, ça se fait en quelques secondes. Et on sait tout de suite si les personnes ont des carences au niveau des minéraux. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut corriger uniquement les minéraux pour lesquels on est en carence. Donc tout ce qui est à gauche de ce trait, ce sont des carences, surtout en orange et encore plus en rouge. Donc là, une forte carence en zinc, etc. Et donc on va compenser comme ça les différentes carences de la personne. Et puis d'autre part, cet appareil nous montre également les métaux toxiques, l'aluminium, etc. Là, c'était un fort surdosage en aluminium, avec tous les risques dont je vous parlais, de problèmes de mémoire, de concentration, de maladies auto-immunes, fibromyalgie et autres. Et donc, on peut donner des chélateurs, c'est ce que je disais, le produit qui va fixer les métaux pour aider l'organisme à s'en débarrasser. Quand on fait ces chélations, on va avoir une amélioration des symptômes. J'ai eu un certain nombre de patients qui ont guéri de maladies auto-immunes grâce à ça. Et puis, parallèlement, les bilans, on peut refaire des mesures, et les bilans, parallèlement, s'améliorent. Voilà, je vais assez vite, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes ces pollutions, ces métaux lourds, l'activité physique? Oui.
Cet appareil dont tu parles, c'est en pharmacie,
chez... Non, il faut aller chez des thérapeutes qui sont équipés. Il y a, je crois que j'ai mis sur mon site internet, il y a un lien qui permet donc de savoir tous les praticiens équipés en fonction de lieux d'habitation. Tous les praticiens, ça peut être des dentistes, ça peut être des naturopathes, etc. Et donc, les gens vont faire la mesure. Après, le problème, c'est que tous les gens qui ont l'appareil ne font pas obligatoirement le protocole de détoxication derrière. Donc après, éventuellement, moi, je peux conseiller si besoin, mais voilà. La mesure peut se faire, il y a je ne sais combien de personnes éduquées en France, ça devient assez répandu.
Donc là, c'est 40, après, vous complémentez.
Voilà, tout à fait.
Par l'alimentation.
Si possible, après, quand c'est des carences fortes, il faut vraiment prendre des cachets en plus. Oui.
Tout à l'heure, on parlait du bio, et une question qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est tout ce qui est agriculture au bio. Mmh. On y va avec plein de produits, et ainsi de suite. J'ai cru comprendre que dans ces produits, il y avait beaucoup de pétrole. Donc, indirectement, ok, le bienfait d'un produit non bio peut être intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas une grande quantité de toxines dans ce type d'agriculture pour favoriser de plus en plus ?
Dans le non bio ?
Dans le non bio.
Oui. Oui, il est évident que le bio a beaucoup d'avantages. Hein. Peut-être que mon message n'était pas très bon tout à l'heure. Le bio a beaucoup d'avantages. Je voulais juste dire que ça ne suffit pas. Il faut rester un peu vigilant. Le fait que ce soit bio ne suffit pas à dire que c'est bon. Et je suis bien d'accord que le bio a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup plus de polyphénols dans un aliment bio que dans un non bio. Il y a beaucoup moins de pesticides, etc. Et donc beaucoup moins d'métaux lourds, tout à fait.
Et quel est le point de vue le plus fort ? Est-ce que c'est plus pénalisant les pesticides et tout ce qu'on peut retrouver dans ces produits-là ? Est-ce que ça aura plus de dégâts que les bienfaits qu'on peut avoir
avec
la consommation de ces produits non bio ? Je ne sais pas si je m'explique en clair.
De toute façon, un produit équivalent, si c'est bio, c'est mieux. Est-ce que
les bienfaits, les nutriments et tout cela que vont apporter les aliments, ça va améliorer notre santé plus que les toxines qu'on a.
Ah oui, oui, la réponse est oui. C'est-à-dire que les produits contenus dans les végétaux, parce que c'est surtout de ça dont on parle, sont bien plus bénéfiques que les éventuels pesticides, parce que de toute façon, il faut bien manger. Et donc, obligatoirement, on va avoir des métaux lourds, on va avoir des pesticides.
Les bienfaits sont super bien.
Ah oui, ça, c'est clair. Alors, idéalement, il faudrait avoir des aliments non contaminés. Ça devient de plus en plus difficile. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais du. Ici, on a un moyen en pourcentage qui permet d'évaluer l'intoxication de la personne. Donc là, ici, cette personne avait 75%, donc c'est une évaluation, de métaux lourds. Mais en réalité, je peux vous dire, j'ai jamais vu personne qui était en dessous de 50%. Donc ça situe un petit peu, ça relativise un peu. On a tous au moins, dans mon expérience, 50% de métaux en nous. D'après le critère du oligoscan. Voilà, on termine sur les toxines neuro-émotionnelles. Alors déjà, une petite expérience qui est ancienne. Si on fait écouter un cochon le cri d'animaux mené à l'abattoir, donc quelque chose d'extrêmement stressant, en quelques minutes, on va retrouver dans le sang de ce cochon des bactéries intestinales, ce qui est la preuve que le stress agit directement sur la barrière intestinale, crée une porosité intestinale. Et donc, je vous ai montré que la porosité, c'était également quelque chose qui favorise beaucoup de toxines. Donc le stress est une cause majeure de porosité et donc d'intoxication.
Donc on peut supposer que les animaux qui sont emmenés à l'abattoir, s'ils le ressentent, la viande est toxique.
Oui, raison de plus de ne pas trop prendre de viande. Voilà, donc en fait on sépare un petit peu artificiellement par les pensées, d'autre part les émotions. Toutes les deux peuvent être toxiques. Le mental peut être toxique à travers ce que j'appelle les pensées négatives. Et les émotions qui peuvent être toxiques à travers deux poisons émotionnels que sont la rancœur et la culpabilité. En quelques mots, donc, la rancœur, on en veut à quelqu'un, la personne, soit elle n'est pas au courant, soit elle s'en fiche, soit même elle est bien contente parce qu'elle sait que ça vous fait du mal, donc elle s'en fiche et vous, ça vous détruit. Donc ça, il faut essayer de ne pas garder la rancœur, je vous en reparlerai un petit peu. Pareil pour la culpabilité, hein. Au lieu d'en vouloir à quelqu'un, on s'en veut à soi-même, et ça, c'est également extrêmement destructeur. Vous verrez qu'il y a des choses assez simples à faire pour agir là-dessus. Au niveau du mental, rapidement, les pensées négatives, c'est tout ce qui va anticiper quelque chose de négatif. À l'inverse, la pensée positive, c'est tout ce qui va permettre d'avoir des projets, de faire des choses qui vous plaisent. Ça, c'est la pensée positive. Et on peut vraiment arriver à développer, par la volonté, la pensée positive. Donc, comment gérer ces pensées négatives ? Tout d'abord, à travers l'entourage. c'est important de prendre conscience qu'on a des pensées négatives, et à partir de là, l'entourage peut vous aider. C'est-à-dire que si vous avez un entourage très positif, tôt ou tard vous devenez positif, mais si vous avez un entourage qui sans arrêt vous raconte ses malheurs, les malheurs des autres, obligatoirement ça va vous affecter. Et donc il faut vraiment essayer de s'entourer de gens positifs et d'éloigner les gens négatifs. Pardon.
Je disais c'est facile de dire qu'il faut s'entourer des gens positifs, mais dans la vie, on rencontre quand même des gens qui ont des, pas mal de soucis, qui sont négatifs.
Il faut les éloigner ou alors il faut pousser les règles. Si on a le temps, je vous raconterai les exemples de gens qui ont guéri de cancer, des gens qui ont guéri de cancer très grave, très avancé, uniquement en éloignant les gens négatifs. J'ai eu plusieurs cas comme ça, je pourrais vous en parler. C'est extrêmement important. Voilà, après si c'est des proches, il faut dire, ben voilà, je viens vous voir pour parler de ça, mais pas pour entendre les raconter les malheurs des uns des autres. Il faut juste fixer les règles.
Mais parler
professionnel, c'est plus dur parce qu'il y a des hiérarchies. Mais là aussi, on peut arriver à influencer. Et penser que son comportement influence beaucoup sur les autres. Et ça, bon, on aura très longtemps d'en parler.
On peut amener les gens négatifs à être positifs.
Oui, entre autres. C'est-à-dire que selon comment on se comporte, les autres se comporteront différemment.
On passe au négatif pour envisager le positif.
Pas trop. Ça me paraît pas la bonne solution. Mais bon, si, on n'a pas trop de temps à détailler, mais on pourrait en parler longtemps. Oui.
Tout à l'heure, je n'ai pas voulu intervenir une deuxième fois si, au sujet des aliments. On dit, c'est ce que je crois, on dit que le citron, l'aliment naturel, c'est un fruit naturel, et qu'il est très bon pour
déploratif. Je vous réponds en un mot. Encore une fois, tous les aliments, tous les végétaux sont bons. Vous me dites le citron, quelqu'un me dira l'aloe vera, quelqu'un me dira ceci. Tous les végétaux sont bons. Il ne faut pas vous dire que le citron va tout régler. Il faut juste varier,
apporter une aide. Par contre, vous avez parlé du biologique. Le pouvoir biologique est fait avec un grand point d'interrogation. Parce que, comme on est dans une société de consommation, il faut produire.
Je suis d'accord. On n'aura pas le temps de détailler ça, mais non, je vais devoir conclure. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets. Voilà. J'en reviens à ça pour vous dire que les groupes de parole, quand on a certaines pathologies, peuvent être un très bon moyen d'aider les gens à passer de la pensée négative vers la pensée positive. Et ça, si vous voulez, on pourra en parler pour ceux qui seront intéressés. Pour ce qui est des émotions, je vous disais, heureusement, il y a des techniques très simples qui ont été mises au point par un confrère avec qui je travaille, qui permet comme ça d'agir sur ces fameuses émotions toxiques, la rancœur et la culpabilité, grâce à un travail symbolique. On ne peut pas agir sur une émotion avec la volonté, avec le mental. Si on en voit quelqu'un, ce n'est pas en disant tous les jours j'arrête de lui en vouloir que ça va changer quoi que ce soit. Mais on peut faire un travail symbolique qui va permettre à l'inconscient de, en quelque sorte, causer les balises un petit peu lourdes, c'est-à-dire. Bon, ben voilà, cette personne, j'ai eu ci, il y a eu ça, je le pose là et j'avance. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est des choses qui sont très très efficaces. J'ai beaucoup de patients qui m'ont dit que ça les avait considérablement aidés d'évacuer leurs émotions toxiques avec ces outils assez simples. Après, on peut avoir agir sur l'inconscient par des techniques de dessin, d'art, donc ça c'est l'art-thérapie. On parle. Donc l'écriture, c'est cet outil dont je vous parle. Après, il y a des techniques un peu plus évoluées comme le EMDR, l'hypnose. Mais déjà, avec des choses qu'on peut faire par soi-même, sans l'aide de personne, on peut beaucoup, beaucoup évacuer tout ça. Voilà, par exemple, les bonshommes allumettes, c'était l'exemple typique de techniques symboliques pour évacuer. C'est une technique avec le mouvement des yeux. On ne sait pas bien comment ça marche, mais ça marche. Voilà, juste un mot pour vous donner un résultat, bon, c'est toujours intéressant de voir les choses. Un homme de 71 ans qui avait en plus une rhéchocolite, donc déjà une maladie auto-immune, et on surveillait son marqueur de cancer de prostate, le PSA, Et on a vu une augmentation qui fait qu'à un moment, on lui a dit, bah, écoutez, là, il faudrait envisager une chirurgie. Pour un cancer de prostate, ce n'est pas anodin, hein, c'est risque d'impuissance, incontinence, etc. Donc, enfin, il était à ce stade-là. Il a décidé de ne pas se faire opérer, mais de mettre en place ce que j'appelle la prise en charge globale, c'est-à-dire tous ses conseils, essayer bien mieux manger, à faire du sport, à gérer ses émotions, etc. Et en quelques mois, son PSA s'est normalisé. Voilà. Donc ça prouve vraiment l'efficacité. Donc ça, c'est sur un cas, mais je vous rassure, il y a eu des publications qui ont étudié ça sur des dizaines ou des centaines de patients et qui confirment que quand on se prend en charge, si on ne se prend pas en charge, le PSA monte, et si on change sur le mode de vie, le PSA baisse. Ce n'est pas un cas isolé. Peut-être je conclue par la nécessité très importante d'accompagner les gens. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, dans une heure, vous l'aurez oublié. Et voilà. Il faut vraiment régulièrement revoir les gens en consultation, relancer un petit peu les choses. Bon, il y a des livres qui peuvent aider à y revenir, etc. Mais j'insiste sur les centres ressources, puisque ça a été une initiative qui a été développée par un confrère cancérologue à Aix-en-Provence. Il y a une dizaine d'années, il a créé le centre ressources qui est maintenant qui a une très belle renommée et qui propose le programme personnalisé d'accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire tout un tas de choses pour avoir une bonne alimentation, faire de l'activité, tout ce qu'on a dit. Et pareil, on a des très bons résultats. Les gens qui sont suivis dans ce centre ont beaucoup plus de chances de guérir que ceux qui ne sont pas accompagnés. À notre niveau, donc on a ouvert il y a environ un an et demi un centre équivalent à Antibes. Avec la différence que, au lieu d'être au service des gens par rapport au cancer, on a également ouvert aux maladies auto-immunes et aux fibromyalgies. C'est-à-dire c'est le même terrain, donc on ne s'est pas limité au cancer. Actuellement, on est en train de chercher un nouveau local, donc on va déménager. Et puis, on a le projet également d'ouvrir des centres comme ça à différents endroits. On peut très bien ouvrir un à Antibes, un à Cannes, dans la région pays. Enfin, voilà. Donc, on est ouvert à toute proposition de local et de thérapeutes qui pourraient venir animer ces centres. Actuellement, on est en relation avec une association d'Avignon qui a donc un centre qui s'appelle Vivre la vie, qui également accompagne les personnes non seulement pour les cancers, mais pour toutes les pathologies chroniques dont je vous ai parlé. Ils ont un très beau parc, hein, avec ils font le tai chi, ils font tout ça dans la nature. Et donc c'est un petit peu ce qu'on essaie de développer dans la région, c'est d'avoir des centres comme ça, un petit peu partout, pour accompagner les gens. Je précise également qu'on fait des séminaires actuellement sur Antibes, pour les gens qui habitent loin, pendant un week-end, on va donner aux personnes le maximum d'informations pour bien tout ce que je vous ai dit en une heure, on le développe en un week-end, voilà, pour avoir plus d'outils pour les gens qui habitent loin. Tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le retrouver sur mon site internet ou sur le site du centre ressources. Et puis donc, vous avez déjà posé quelques questions, si vous avez encore quelques-unes. Je suis à votre disposition, ou après, si vous souhaitez.
Oui, M. Dumont, si
vous voulez,
sur la question de Yann,
on passe sur le faire, Rougier. Yann Rougier, c'est le médecin qui s'occupe plus de l'outil neuro-émotionnel, donc cette prise en charge des émotions toxiques, etc. C'est un médecin qui est spécialiste en neurosciences, c'est une spécialité un petit peu nouvelle en médecine, qui fait le lien entre le mental et le corps. Et donc, il a beaucoup travaillé aux États-Unis. Actuellement, enfin, d'ici quelques mois, on espère qu'il va vraiment s'implanter à nouveau dans la région pour consulter. Et c'est grâce, c'est avec lui que je fais toute cette activité.
Pourquoi on sollicite pour une de ces réunions avec votre association, vous auriez besoin de quoi?
Alors, faites bien de poser la question. Toutes les aides sont bienvenues. On peut avoir besoin de gens qui mettent à disposition du temps, par exemple pour faire de l'accueil, pour faire des choses assez simples. Des locaux, parce que aussi bien on peut ouvrir des centres en fonction des locaux. Les locaux, c'est quelque chose d'important, bien sûr. On n'a pas besoin de grandes surfaces, à partir de 50 mètres carrés, on peut ouvrir un petit centre et quelques thérapeutes. On peut avoir besoin, bien sûr, d'argent, donc là, tout ce qui est dons, en sachant qu'ils sont largement défiscalisés, puisqu'on est reconnu d'intérêt général, de publicité publique. Et puis enfin, il y a toutes les compétences, hein, aussi bien en effet, quelqu'un qui va donner un coup de main en comptabilité, en informatique ou autre. Tout ça, c'est vraiment, tout est bienvenu. Donc vous pouvez très bien voir sur le centre, sur le site Centre Ressources 06 et laisser votre candidature, on va dire.
Si je précise la question, c'est là vous m'avez répondu et j'ai compris que c'était un centre à demeure, dédié complètement à ça. Est-ce que vous êtes un peu itinérant ou pas?
Non, mais on peut très bien imaginer des centres qui ouvriraient progressivement, c'est-à-dire un centre qui ouvrirait au début une journée par semaine, puis deux, puis trois si besoin. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir au départ 200 mètres carrés et ouvrir 7 jours sur 7. À Aix, ils ont 900 mètres carrés. Pour moi, c'est vraiment très très grand, difficile à gérer, ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que la solution, déjà par rapport à la proximité pour les adhérents, c'est vraiment d'avoir des petits centres. C'est beaucoup moins lourd et beaucoup plus souple.
Je pense que le Japon, si je me trompe, monsieur le maire, c'est de ça dans les maisons de santé,
bien sûr.
Évidemment, pour l'évacuation.
Tout à fait.
C'est ce qu'on cherche à faire aussi.
Tout à fait. Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de souplesse et qu'il ne faut pas au départ s'interdire tel ou tel projet. On peut très bien envisager tout projet de collaboration.
Vous précisez qu'on a fait au départ l'esprit de fédération des associations de droit national.
Dernière association dont je vous ai parlé, Vivre la vie, est une association qui prévoit également d'essayer dans toute la France, d'avoir des centres un petit peu partout en France. Je pense qu'à terme, il y en aura dans tous les départements. Et on voit l'intérêt de ça.
Est-ce que vous travaillez avec des structures comme les maisons de retraite ou est-ce que vous faites des conférences?
Pour l'instant, non, mais disons là aussi, tout est envisageable. Si vous pensez que ça peut être un moyen de créer quelque chose, pourquoi pas? Disons qu'on est ouvert à toute discussion, toute réflexion. Après, comme ça, je ne peux pas vous répondre définitivement.
Est-ce qu'il y aura besoin de changer l'alimentation? Il me semble qu'il est important d'abord de convaincre les professionnels.
C'est important, mais à l'inverse, on ne peut pas non plus aller dans le conflit. On sait très bien que si on va dans un hôpital en disant qu'il faut tout changer, les gens vont se dire vous êtes bien gentil.
Mais...
ça, c'est très difficile. En fait, il faut vraiment passer par le public, on va dire. C'est le public qui est très demandeur, très réceptif. Et lui, il joue le jeu. Tout ce qui est institutionnel, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus long, et donc souvent moins efficace.
Moi, je voulais vous demander pourquoi les compléments alimentaires, finalement, ne sont pas donnés par les médecins, ils n'ont pas remboursé, alors qu'ils font du bien par rapport à certains médicaments.
Je vous l'ai dit, pas tous. Le problème qui est là, c'est que il faudra d'abord savoir si on a besoin ou non. Prendre des compléments au hasard, ça peut être plus toxique qu'autre chose. Après, vous avez raison, si on voit une carence en tel ou tel minéral, par exemple, ce serait bien que la sécurité rembourse plutôt que de rembourser des produits parfois toxiques. Là, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer dans le
débat.
Ça
fait plaisir de voir que la médecine évolue. Il faudrait
que. Tout doucement. Il y a encore beaucoup de réticence.
Je vous connais, j'ai des compléments alimentaires, je me conviens, et du coup, je n'ai plus besoin d'anti-inflammatoires qu'on ne voit pas. On ne doit pas prendre
souvent. C'est
sûr,
maintenant, si vous achetez un sachet de curcuma, c'est pas très cher. Voilà. C'est, je vous ai parlé de pas attendre, toujours que ce soit, que ça vienne d'ailleurs. Sinon, on attendra toute notre vie. Il faut aussi.
Le problème, c'est souvent, quand on en a parlé une fois,
du curcuma,
on
n'a
pas pris soin
de
le prendre. J'ai dit, bon, qu'est-ce que ça va faire? Je ne sais
pas. Alors, la peur, c'est les pensées négatives.
Là, il y a des études dessus, on ne sait pas.
Voilà, mais il faut se faire comprendre.
C'est pas un médicament,
il n'y a rien, on ne sait pas. Voilà, mais c'est vrai, mais bon, ceci étant, si vous avez des personnes qui vous disent que c'est bénéfique, bon, voilà, il faut aussi faire un petit peu confiance et ne pas avoir peur. Parce que si on reste dans la peur, on ne fait rien, ça c'est toxique.
Je voudrais apporter un petit témoignage, parce que j'ai eu un cancer il y a quelques années et que je me suis soignée, entre autres avec l'aide de votre livre et bien d'autres, bien sûr, et que j'ai fait tout par non allopathie.
Merci pour le témoignage. Désolé que vous ayez eu autant de mal à corriger cette acidité, parce que c'est important. Mais bon, normalement, je vous dis, en quelques mois, les gens se sentent beaucoup, beaucoup moins attirés par le sucre qu'à un moment,
le problème, c'est plus les voilà, je n'ai pas été accompagnée, puisque voilà. Les médecins ne peuvent pas entendre.
C'est le gros problème, je pense qu'il est là. Si vous étiez accompagné, je pense que ça marcherait beaucoup.
Je n'ai pas vu de prise de sang du tout, je n'ai pas été suivie. Mais malgré tout, je me suis soignée avec le changement de l'alimentation, la pensée positive, le sport que j'avais toujours fait. J'étais déjà végétarienne, donc je ne mangeais pas de viande, j'ai supprimé le lait, et voilà. Puis j'ai remonté mon immunité, qui était la principale chose.
Alors, juste un mot pour ne pas faire peur aux auditeurs, on n'est pas obligé de devenir végétarien, de ne plus prendre de lait, etc.
Non, mais c'est un choix.
C'est plus identifier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, après regarder sous place. Hein. C'est vrai que quand on est face à la maladie, on est prêt à tout.
En tous les cas, j'ai quand même commencé.
Mais bon, on ne peut pas non plus se dire on arrête tout. C'est trop... Si c'est trop contraignant, les gens ne feront pas. Et il vaut mieux faire pas très bien longtemps que de faire bien pendant 15 jours et puis d'abandonner.
J'ai suivi la cure de Bruce.
Très bien.
Et de Gerson et Kelly.
Exactement.
Vous avez un cousinage dans le troisième volet de votre triptyque avec nos amis bouddhistes. Ils sont tous très bien.
Oui, c'est vrai que c'est la partie qui m'intéresse beaucoup, mais qu'on n'a pas trop le temps de développer comme ça en une heure. Mais c'est vrai que c'est un levier qui est majeur. Et encore une fois, je vous dis, j'ai vu des gens guérir en changeant d'environnement, en changeant d'environnement relationnel. Des cancers très avancés, des gens qui étaient mourants, et qui ont guéri complètement en s'extrayant d'un milieu toxique. Donc vraiment, l'environnement peut être la principale toxine dans un cancer. Je prétends pas répondre mieux que ce que vous entendez à droite à gauche. Juste vous dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles aux ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle les électrosensibles. Et pour ces gens-là, ça peut être terrible au stade de ne plus sortir de chez soi, etc. Enfin, ça peut être extrêmement invalidant. Pour les gens qui n'ont pas cette électrosensibilité, on n'a pas vraiment prouvé, enfin, moi, il y a des études un peu contradictoires qui montrent que sans doute, si on l'utilise longtemps, très près de l'oreille, etc., on pourrait augmenter des risques. Mais à mon avis, c'est très loin, ce n'est pas le principal facteur toxique. Hein, c'est peut-être 1% sur l'ensemble et encore. À moins d'être électrosensible, là, je vous dis, ça devient vraiment très bien. Mais pour moi, toutes les toxines dont je vous ai parlé, chimiques, alimentaires et émotionnelles sont beaucoup plus importantes qu'un téléphone portable. S'il y avait un choix à faire, il n'y a pas à hésiter, c'est vraiment de se focaliser sur ces trois facteurs bien identifiés et fondamentaux.
Sur le facteur émotionnel, je vous suis complètement, parce que j'expérimente au quotidien. Mais par contre, je parle dans l'environnement dans lequel on vit, quand on met la télé, quand on met des infos, des choses comme ça, ça n'est pas aider les gens de polluer en permanence l'esprit par des mauvaises nouvelles, etc. Et personnellement, moi, j'ai coupé ça.
Vous avez bien raison. Les informations sont une très très grosse source de pensées négatives et qui en plus se voulue. C'est-à-dire que cette pensée négative permet de vendre des assurances parce qu'on va avoir peur, on va se protéger, permet de vendre des médicaments, permet de vendre plein de choses. Et effectivement, oui.
Parce qu'il y a un lobby derrière quand même.
Il y a plein de lobbies qui permettent de vendre des choses en faisant peur aux gens. Il faut résister à ça. Il faut être plutôt dans la confiance, pas dans la peur.
C'est ça
la pensée positive.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Je voudrais juste répondre à Mme Herman, bien sûr, tout le monde, la fond de trésorier. L'action Maison de Retraite, nous l'avons demandé depuis 2 ans, avec Sylvain Cœur, qui est la Fédération nationale de la Maison de Retraite. Nous avons su, je crois, particulièrement, de sensibiliser ces dirigeants. Alors que ces gens forment tout le personnel de Maison de Retraite. Michel et Yann sont quand même des empêcheurs autour de la ronde, parce que quelque part, on a gaspillé un peu la médecine professionnelle. Donc l'entrée, quasiment pour l'instant, on peut le dire, a quasi toujours été refusée pour ces motifs-là. Mais on va pas se laisser faire. Il faut qu'on demande bien de nous tous, les gens qui ont besoin de ça.
Oui, les familles.
Voilà, pour que quelque part ça bouge.
Je parle
comme
je pense
aux
unités Alzheimer.
Évidemment, c'est spécialisé, mais là vous avez moins Alzheimer, bien entendu.
Bernard a raison, il y a souvent beaucoup de réticence. Dès qu'on change un petit peu les choses, ça devient difficile.
C'est pareil.
Les lobbies, les habitudes, c'est des professionnels, non?
Oui, vous avez l'objet.
Parce que dans les médias, ils font ouais, c'est surtout les lobbies financiers.
Bon,
lobbies.
Voilà, bien, merci à toutes et à tous et à vos dispositions. Si vous avez d'autres questions.